Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, cette émission est consacrée au regard de trois hommes sur le monde qui les entoure et sur celui d'où ils viennent. Ces trois hommes sont tous économistes, tous africains, et tous, ils vivent et travaillent aux États-Unis, où ils enseignent dans de prestigieuses universités. Pour autant, ils n'ont pas coupé les ponts avec le continent sur lequel ils sont nés. Avec eux, nous parlerons donc de l'économie américaine au temps du Black Lives Matter et de la pandémie de coronavirus, pandémie qui affecte également les économies africaines, et il en sera longuement question dans cette émission, mais ne perdons pas trop de temps avec les préliminaires et passons tout de suite aux présentations de ces trois grands économistes africains. Bonjour à vous d'abord, Léonard Ouantchekon.
Bonjour.
Léonard Ouantchekon, vous êtes né au Bénin, un pays que vous avez été obligé de fuir sous le régime Kérékou. Vous êtes aujourd'hui professeur de sciences politiques et économiques à l'université de Princeton dans le New Jersey aux États-Unis. Vous êtes également vice-président de l'Association américaine de sciences politiques et vous avez fondé il y a quelques années au Bénin l'École africaine d'économie. Avec vous dans cette émission, Landry Signé. Bonjour Landry Signé.
Bonjour.
Landry Signé, vous êtes Camerounais, vous êtes membre du Centre d'études africaines de l'Université Stanford en Californie et chercheur associé à la Brookings Institution, un des plus anciens think tanks américains. Votre livre le plus récent s'intitule « Unlocking Africa's Business Potential ». En français approximatif, comment débloquer le potentiel des affaires en Afrique, c'est publié aux presses de Brookings Institution. Enfin, je conclue cette présentation par celui qui est probablement le Benjamin de cette émission. Bonjour Abdoulaye Ndiaye.
Bonjour.
Abdoulaye Ndiaye, vous êtes Sénégalais. Après avoir travaillé à Chicago dans la branche locale de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale, vous êtes maintenant professeur assistant à la New York University et vos travaux de recherche portent essentiellement sur le financement de la sécurité sociale américaine et sur les questions fiscales, mais vous réfléchissez aussi à ce qui se passe en Afrique. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, nous rejoindrons d'abord Thomas Arms à Houston, puis Loïcia Martial à Brazzaville, et Sonia Rollet évoquera pour nous la dépendance de la RDC aux exportations de matières premières. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander à vous trois qui êtes africains, comment vous vivez ce moment très particulier de l'histoire américaine où se mêle le mouvement Black Lives Matter et les conséquences du coronavirus. Léonard Ouantchekon, peut-être vous d'abord.
Avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion, parce que voilà, ça fait très longtemps que l'injustice raciale se développe avec certaines formes subtiles, donc comme la discrimination sur le marché du travail, dans les admissions, dans les programmes de formation, mais également des formes brutales, quoi. Donc comme ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec l'assassinat de George Floyd. Donc le fait que les Noirs aient beaucoup plus de Blancs que d'habitude se sont associés à ce mouvement, c'est vraiment beaucoup de fierté. Donc on espère que cela va se transformer en des changements de politique réels, voilà, à commencer par ce qui va se passer en novembre prochain, les élections présidentielles.
Landry Signé, vous, comment est-ce que vous le vivez? Vous vivez plutôt sur la côte ouest, même si vous nous parlez en ce moment, je crois, de Washington. Est-ce que votre ressenti est différent?
Je pense que ce sont des événements très importants. Les inégalités structurelles sont massives ici aux États-Unis. Et les Noirs, comme le notait Léonard, ont été discriminés pendant plusieurs siècles, que ce soit d'abord à travers l'esclavage, ensuite des lois restrictives de leur liberté. Donc il est extrêmement important que ce mouvement se transforme en politique publique. Donc, autrement dit, que les leaders, et peut-être lors des prochaines élections, on pourrait éventuellement voir un changement, puissent adopter des politiques qui permettront de répondre aux requêtes légitimes des personnes noires et donc d'améliorer la situation de manière durable.
Mais vous, Landry Signé, comme Abdoulaye Ndiaye ou Léna Ouanchenko, est-ce que vous avez été victime de ces discriminations?
Les discriminations, de plusieurs manières, je vous ai parlé de ceci. Dans un premier temps, je m'estime particulièrement chanceux parce que pour mon parcours, que ce soit parti du Cameroun quand j'étais encore adolescent, pour la France d'abord, ensuite le Canada, les États-Unis, et maintenant cumulant aussi bien les postes de chercheur émérite à Brookings Institution et à Stanford University, et aussi bien de professeur d'université à la Thunderbird School of Global Management. Je pense que j'ai été particulièrement chanceux, même si c'est aussi le fruit d'un travail de longue haleine et d'une détermination constante. Mais oui, définitivement, lors des engagements, si je prends un exemple, traversant la frontière, si je signale que je suis professeur d'université ou affilié à Stanford University, vous voyez la réaction directe de certains administrateurs qui va être beaucoup plus favorable et enthousiaste que lorsque elles ne savent pas qui je suis. Je ne souhaiterais pas généraliser. Cependant, il est clair que les problèmes qui sont soulignés sont réels.
Abdoulaye Ndiaye, vous êtes celui qui est arrivé le plus récemment aux États-Unis, des trois économistes avec lesquels nous parlons aujourd'hui. Je sais que vous êtes très actif dans la société américaine, que vous avez été vu, vous avez participé aux manifestations, vous avez même mis des photos sur votre compte Twitter. Est-ce que cela va changer la donne économique aux États-Unis, ces mouvements ?
Donc le mouvement Black Lives Matter et la situation actuelle avec le coronavirus est quelque chose qu'on a vécu de plein pied et qu'on vit encore à New York, où donc j'ai participé à des protestations. Et aussi, il y a plein de jeunes, il y a 40 millions actuellement de personnes, et un peu moins maintenant, qui sont au chômage, avec aussi 20 millions d'étudiants qui ne sont plus à l'école. Et donc, ce qui a créé un mouvement conséquent de personnes qui sont allées dans les rues pour protester. Donc, j'ai participé un peu à ceci et également aussi aux discussions pour changer un peu la donne. C'est le moment où on espère qu'il y aura un changement vraiment de politique publique et le fait de voir aussi que la plupart de ces travailleurs essentiels qui sont importants pour le coronavirus, ce virus en particulier touche en majorité les populations minoritaires, les populations noires, et donc que ce sont deux problèmes liés, et on espère qu'il y aura des changements maintenant, à la fois sur les opportunités que les personnes noires ont et auront aux États-Unis, et aussi sur la façon dans laquelle ils ont traité. L'une des difficultés sur les questions policières est le fait que ces questions-là sont déterminées au niveau très local aux États-Unis, donc il faudrait des changements dans chaque ville. Voilà. Sur la question de comment j'ai eu l'expérience de discrimination aux États-Unis, je pense que c'est plus sur la façon dont je suis traité, moins sur les opportunités, vu que en tant qu'Africain et avec les États-Unis juste pendant 6 ans, je n'ai pas eu cette expérience de 400 ans d'esclavage de mes ancêtres qui peut créer beaucoup de traumas que les personnes qui sont plus afro-américaines ont eu à vivre.
La dernière information dont on dispose sur l'économie américaine sont les chiffres du chômage qui sont tombés peu avant l'enregistrement de cette émission et qui semblent meilleurs que ce qu'on attendait. En tout cas, le chômage a tendance à régresser. Est-ce que, Leonard Wojcicki, est-ce que l'économie américaine est en train de se remettre de la crise du coronavirus qui est très très loin d'être terminée?
Oui, sur le plan économique, oui. Mais en fait, comme la situation sanitaire ne s'est pas vraiment améliorée, l'incertitude liée à cela va toujours continuer à ralentir donc la relance économique, les investissements et également les marchés financiers, quoi. Donc tout cela ensemble fait que bon, là, il aura une relance et la relance a commencé, mais cela va prendre du temps. Étant donné que la situation sanitaire ne s'est vraiment pas améliorée, il reste beaucoup d'incertitudes sur ce plan-là.
Alors, vous êtes tous les trois des citoyens africains, bédinois, camerounais, sénégalais, vivant aux États-Unis, un pays qui n'est pas le vôtre. Vous êtes donc des immigrants. Le président Trump ne cesse d'agiter la question migratoire pour satisfaire son camp. Le 22 juin dernier, il a signé un décret qui suspend la délivrance de cartes de résident permanent, les fameuses cartes vertes, les green cards, suspendu aussi l'octroi de visa pour les travailleurs qualifiés. Le calcul de Donald Trump est simple. La fermeture des frontières, pense-t-il, va obliger les entreprises à recruter les travailleurs américains. Cela au moment où quelque 30 millions de personnes sont affectées par l'impact économique de la crise du coronavirus et sans emploi. Un taux de chômage jamais vu quasiment depuis la Grande Dépression des années 1930. Mais le calcul de Donald Trump peut-il fonctionner ? Est-ce aussi simple que cela ? Écoutez ce reportage d'Écodici Éco d'ailleurs, signé Thomas Harms à Houston.
H&B, H2B, J et L, ces sigles sont la cible de l'administration Trump. Quatre visas qui s'adressent à des travailleurs, des expatriés ou des étudiants.
Je pense que j'ai jamais eu autant de contacts de personnes inquiètes qu'elles ne pouvaient pas voyager, elles ne pouvaient pas rentrer.
Églantine Povarelmos est avocate spécialisée dans le droit de l'immigration et de la nationalité aux États-Unis.
Toutes les entreprises américaines qui utilisent du personnel international qui fait venir de manière temporaire aux États-Unis doivent passer par un visa non-immigrant de travail. Et ces visas-là qui ont été visés, ce sont les visas les plus courants. Ce ne sont pas généralement des postes de personnes qui n'ont aucune formation, ce sont généralement des postes de personnes qui connaissent très bien les activités de production à l'étranger et qui viennent apporter leur brillance sur l'économie américaine.
Pour Tony Payane, qui dirige les études sur les relations frontalières et internationales au Baker Institute de la Rice Université, s'attaquer à ces visas met en danger toute l'économie du pays.
Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ne produisent plus le type de travailleurs dont le pays a besoin, parce que nous n'investissons pas dans l'éducation. Les visas H1B sont destinés à des personnes hautement qualifiées, des scientifiques, des professeurs, des chercheurs, des rédacteurs de logiciels, etc. Et la plupart d'entre eux viennent de Taïwan, de Chine, d'Inde et d'Europe. Nous n'avons même pas eu à investir dans l'éducation de ces personnes. Nous les faisons simplement venir ici et ils sont aussitôt bons pour le travail. Ils deviennent aussitôt des producteurs de richesses. Donc si vous commencez à couper cette source, vous allez simplement mettre les États-Unis encore plus en retard sur le plan technologique, entre autres, si vous ne forcez pas tout simplement les entreprises à se délocaliser.
En 2017, lors d'une précédente restriction des visas par Donald Trump, des entreprises sont parties de Californie ou de Washington pour aller à Vancouver, au Canada. Mais avec le nouvel engouement pour le télétravail, les entreprises pourraient désormais employer des travailleurs qualifiés chez eux, comme des ingénieurs en Inde. Tony Payane.
Je pense que l'Inde est particulièrement bien placée. L'Inde forme un demi-million d'ingénieurs chaque année. Donc, si l'Inde peut juste adapter son système économique, son système fiscal et offrir des avantages suffisamment attractifs, ce pays pourrait devenir l'un des plus grands bénéficiaires de l'arrêt des visas et des nouvelles méthodes de travail.
L'an dernier, 72% des visas H1B était allé à des Indiens.
Un reportage signé Thomas Harms. Abdoulaye Ndiaye, que vous inspire ce reportage ? Le président Trump est en train de se tirer une balle dans le pied en nuisant à l'économie américaine avec ses mesures ?
Alors oui, absolument. Et là, Jean-Pierre, vous parlez à quelqu'un qui est touché par ces mesures-là directement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai actuellement le visa H1B. Et que je dois renouveler jusqu'à décembre. Donc, je ne peux pas actuellement aller retourner au Sénégal où je vais d'habitude pendant les vacances de décembre et aussi pour visiter la banque centrale là-bas. Donc, actuellement, je suis bloqué aux États-Unis comme beaucoup d'autres et je connais des étudiants à la fois un peu partout du monde et aussi d'Europe qui ont eu des postes au MIT, Harvard et NYU et qui ne peuvent pas prendre ces positions-là executive order. Donc je pense vraiment que là, Trump se met une balle dans les pieds et on connaît très bien que la contribution des immigrants aux États-Unis, qui sont notamment sélectionnés par leur haute qualification et qu'ils apportent beaucoup à l'innovation américaine dans la Silicon Valley, qu'ils sont une minorité, 16%, et pourtant, la plupart des patents, 30% vient...
Des brevets.
Voilà, des brevets, ouais.
Oui, voilà. Landry Signier, vous partagez ce point de vue? C'est très mauvais pour l'économie américaine, cette restriction sur l'entrée sur le territoire américain des inventeurs, des cerveaux, des gens qualifiés?
Tout à fait. C'est très clair que c'est une mauvaise décision pour l'économie américaine à plusieurs titres. Dans un premier temps, plusieurs des travailleurs essentiels, actuels même, que ce soit des infirmières ou des médecins, font partie de ces immigrants et qui apportent une solution effective à la lutte contre le coronavirus. Et le second point aussi, c'est que plusieurs chercheurs, experts et autres sont impliqués dans la recherche du vaccin, d'une solution durable contre l'actuel virus qui mène cette pandémie mondiale. Ajouté à cela, le fait que plusieurs des innovations, que ce soit dans des grandes entreprises comme Facebook, Google, entre autres, sont le fait du travail des immigrants, de plusieurs immigrants. L'un de mes collègues, d'ailleurs, à Brookings Institution, publiait un article où il présentait le fait que suspendre l'immigration va justement affecter l'économie américaine de manière substantielle, non seulement durant la pandémie, mais de manière encore plus forte après la pandémie, la capacité à pouvoir rebâtir l'économie américaine.
Léonard Wojciechowski, dans le reportage qu'on vient d'entendre, un pays semble devoir tirer son épingle du jeu et bénéficier des mesures américaines. C'est l'Inde, disait l'interlocuteur rencontré par Thomas Harms. Vous partagez ce point de vue?
Oui, bien sûr. D'abord, il y a le fait que les scientifiques et les innovateurs indiens donc vont pouvoir rester chez eux et contribuer à ce qui se passe sur place. Et également, beaucoup pourront, par le télétravail, arriver donc à tirer le mieux de leurs relations avec les entreprises américaines, tout en restant chez eux également. Mais en fait, je dois ajouter simplement que c'est une mesure purement politique, une mesure purement prise pour pouvoir essayer de réveiller ou du moins de stimuler la base ultranationaliste en vue des élections donc, de novembre. Donc je crois que on ne peut pas perdre cela de vue, quoi, que c'est purement une mesure de, politique.
Mais vous pensez que c'est susceptible d'atténuer l'impact du coronavirus sur le taux de chômage américain qui s'est envolé? Est-ce que le fait qu'il y ait moins d'entrées de travailleurs qualifiés étrangers va réduire le taux de chômage?
Ben, pas du tout, parce qu'en fait, essentiellement, le chômage frappe les gens qui sont dans le domaine des services, les restaurants, alors, de ce point de vue, et comme les collègues l'ont dit, c'est justement ces immigrants qui contribuent non seulement à essayer de limiter donc les dégâts sur le plan médical actuellement, mais ensuite de booster, disons, l'innovation et la recherche qui vont accélérer, donc qui va permettre d'accélérer donc la relance économique ici. Donc clairement, ceux qui doivent rester chez eux ne sont pas censés remplacer ceux qui ont perdu leur emploi ici. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que cela pourra avoir un quelconque effet sur le chômage, bien au contraire.
Sur le retard technologique des États-Unis, qui est argumenté dans ce reportage de Thomas Harms, vous dites quoi?
Non, en fait, je crois que le retard technologique, il faut dire quand même que c'est clair que, il y a une base technologique très très élevée, donc je ne pense pas que cela va être une catastrophe donc sur ce plan-là pour le pays, quoi. Donc à un moment où on a besoin vraiment de booster donc les choses, notamment disons au niveau donc des IT, au niveau donc des technologies de l'information, etc., des technologies de communication, c'est vraiment dommage que les gens qui vont contribuer à cela de façon effective, donc sont les plus frappés, quoi. Mais je ne pense pas qu'il aura eu une implication dramatique dans le court terme.
C'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons économie américaine et économies africaines avec trois économistes africains qui travaillent aux États-Unis. Leonard Wanchenko à Princeton, qu'on vient d'entendre, Landry Sini à Stanford et Abdoulaye Ndiaye à la New York University. Parlons de l'Afrique maintenant, si vous voulez bien. Le coronavirus, il y a aussi des effets dévastateurs, moins sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Le continent, on va connaître son taux de croissance le plus faible depuis 50 ans. On attend pour 2020 une récession de 3,2% selon le FMI. Selon ce que nous disait ici même votre confrère Carlos Lopez il y a quelques semaines, il faudra 10 ans à l'Afrique pour s'en remettre. Est-ce qu'il ne faut pas enterrer l'idée d'une Afrique qui décolle, qui se développe, Landry Sini ?
Non, je ne suis pas de cet avis. Je pense plutôt que en dépit des conséquences drastiques sur le court terme qui seront visibles sur le continent, comme ça l'est dans la plupart d'autres pays, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, sur le long terme, l'Afrique présente un potentiel incroyable, comme démontré par certaines projections dans mon livre « Unlocking Africa Business Potential ». J'identifie à peu près 13 raisons pour lesquelles je pense que le continent demeure une destination très attractive. L'un des premiers facteurs est la croissance de la consommation, aussi bien des ménages, mais aussi les dépenses corporatives, que j'estime à peu près 6,7 trillions de dollars d'ici 2030. On a des pays comme l'Éthiopie, par exemple, l'Afrique du Sud, le Kenya, entre autres, qui représentent une importante proportion de la population. On a aussi d'autres facteurs tels que l'industrialisation. Quand je parle d'industrialisation, je ne parle pas nécessairement du secteur manufacturier traditionnel, parce que plusieurs experts, lorsqu'ils parlent d'industrialisation en Afrique, réfèrent plutôt à la déindustrialisation, parce que le secteur manufacturier représente une faible proportion des économies africaines. Mais lorsqu'on parle de ce qu'on appelle à The Brookings Institution, des industries without smokestacks, dont les industries sont fumées, s'il faut traduire de manière plus ou moins littérale en français. Ces industries, les exportations dans ces secteurs industriels entre 1998 et 2015 ont été 6 fois supérieures aux exportations dans les secteurs manufacturiers traditionnels. Donc, ces industries ont aussi les mêmes caractéristiques que le secteur manufacturier traditionnel. On parle, par exemple, du fait qu'il y ait des biens qui puissent ou services qui puissent être exportés, leur capacité d'absorber une main-d'œuvre moyennement qualifiée et la grande productivité dans ces secteurs, incluant par exemple le secteur agro-industriel et des industries qui sont connectées à la quatrième révolution industrielle, à l'information et à la communication.
Landry Sini, on va demander à Abdoulaye Ndiaye s'il partage votre optimisme inébranlable qu'on retrouve ici dans cette émission, qu'on peut voir dans tous vos écrits. Vous êtes absolument catégorique sur l'Afrique, nouvelle frontière de la croissance, du développement, du bien-être des populations. Malgré tout, Abdoulaye Ndiaye, cette crise du coronavirus, qui est quand même sur le plan économique une énorme chose, est-ce qu'elle ne va pas faire prendre du retard au continent africain ?
Oui, alors, donc, certainement, cette crise va déléguer la croissance en Afrique et autour du monde, nous avons, les économies sont très affectées. Mais je pense que cette crise est aussi une opportunité, vu qu'on voit que le travail change, les nouvelles formes d'économie vont changer également. Et c'est une opportunité pour beaucoup de pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, d'arrêter leur modèle de croissance, que j'appelle croissance à l'import, pour voir plus et faire plus une croissance qui augmente la productivité locale. Donc cette croissance à l'import que nous avons actuellement est liée aussi au fait de l'endettement de ces pays africains, vu qu'il y a une difficulté de mobiliser les ressources locales. Et nous avons vu avec le moratoire de la dette qu'il y a eu une baisse des notations de la dette privée africaine. Et donc, il faudrait un changement de comment financer ces, les économies locales. Et aussi, nous voyons aussi qu'avec cette crise, il faut un secteur sanitaire vraiment résilient et donc que la productivité locale est très importante pour se relever. Et donc, c'est le moment pour ces pays-là d'investir dans la productivité locale.
Qu'appelez-vous investir dans la productivité locale ?
Donc, alors, ce que j'appelle dans ça, c'est d'abord investir dans le capital humain, l'éducation qui permet la création d'entreprises locales qui font les... à la fois les projets d'infrastructure et les, l'industrialisation et, locale. Donc la différence avec ce qui se fait actuellement, qu'il y a souvent de très grands projets qui sont financés à l'étranger, qui sont aussi contractés avec de l'expertise étrangère et qui, au final, a très peu de retombées. Locales, notamment les retombées uniquement sur les taxes des entreprises que l'on a, plutôt que d'avoir des entreprises locales qui vont créer ces projets-là et développer ça. Donc vraiment l'idée avec beaucoup de pays maintenant, notamment par exemple comme le Sénégal qui a découvert le pétrole, c'est d'avoir une expertise locale qui peut faire ces exploitations-là et vraiment switcher de cette croissance à l'import plus vers une croissance menée par la productivité locale.
Ce diagnostic sur le fait que cette crise est peut-être une chance pour l'Afrique, Léonard Ouachekon, vous le partagez ?
Absolument, je la partage absolument. Et je pense que il y a deux éléments sur lesquels mes collègues ont insisté. Donc l'investissement dans le capital humain, je vais ajouter dans la recherche, dans la science. Donc, pour permettre donc non seulement de créer des emplois, mais également de permettre donc aux scientifiques africains, par exemple, de trouver des méthodes donc qui permettent donc de faciliter la création donc d'entreprises, la recherche frontière. Le deuxième point, c'est au niveau, par exemple, de l'économie digitale. Donc, avec les changements qu'il y a eu ces derniers temps, ça montre l'importance cruciale du digital, de l'économie numérique dans la croissance économique. Donc, ces deux éléments sont fondamentaux, donc sont très fondamentaux dans ce qu'il faut faire par rapport à l'avenir immédiat sur la base donc des effets du Covid-19. Donc, et surtout, étant donné que la crise économique actuelle, c'est une crise qui va être en bonne partie importée. Donc, s'il y a la relance économique ailleurs, cela va soulager un peu plus les pays africains. Donc, mais il faut aller plus que ça. Donc, investir dans le capital humain, dans la recherche et dans le digital. Donc, pour faire de ceci une opportunité de croissance.
Alors, Abdoulaye Ndiaye, vous parliez de la dette des pays africains tout à l'heure. Pour faire face à leurs difficultés économiques et à leurs échéances de remboursement, certains pays africains, la plupart, ont obtenu un moratoire de la part de quelques-uns de leurs créanciers, surtout ceux réunis au sein du Club de Paris. Le Congo-Brazzaville est l'un de ces pays. Se pose maintenant la question de l'utilisation des fonds libérés par ces moratoires. Écoutez ce reportage signé Loïcia Martial à Brazzaville.
Dans un bureau du sixième étage du ministère des Finances, Ludovic Ngatsi, ministre délégué au budget, a exprimé devant la presse son satisfecit suite à l'annonce du Club de Paris, avant de s'expliquer longuement sur les avantages du moratoire.
Le report ou la possibilité de ne pas payer cette dette pour la partie du Club de Paris représente à peu près 130 milliards. Mais le Club de Paris a demandé aux autres créanciers, notamment ceux du Club de Londres, qui sont les créanciers privés, de suivre le Club de Paris dans cette initiative. Et là, nous pourrions bénéficier de montants beaucoup plus importants. À ce jour, on a déjà à peu près 180. Nous espérons qu'on pourra atteindre les 200 et quelques.
Les montants avancés par le ministre délégué au budget sont chiffrés en milliards de francs CFA et seront injectés dans la lutte contre le coronavirus, l'amélioration du social en général et la relance de l'économie nationale confrontée à la crise sanitaire et à la baisse des cours du pétrole.
L'argent qui sera libéré, que nous ne pourrions pas décaissée pour payer cette dette servira en fait à répondre aux besoins urgents de réponse à la pandémie. D'ailleurs, dans le cadre de cette initiative, donc, on oblige les pays qui font le gain, c'est-à-dire qui sont agréés, d'utiliser ces ressources à faire face aux dépenses urgentes, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan social et sur le plan économique.
La direction du CHU de Brazzaville affirme avoir reçu d'importantes subventions du gouvernement qui ont permis d'améliorer son plateau technique. Ulrich Judicael Biez est le directeur général adjoint du CHU.
Nous avons reçu de la part du gouvernement 7 respirateurs, des 15 qui nous ont été promis. Et nous avons reçu également 15 moniteurs. Il s'agit des scopes multiparamétriques, c'est-à-dire des appareils de surveillance des patients. Nous avons reçu 15 seringues électriques également.
En revanche, les entreprises locales qui ont préfinancé les travaux de l'État demandent au gouvernement de profiter du moratoire du Club de Paris pour faire face à leurs dettes qui seraient de l'ordre de 146 milliards de francs CFA. Josephat Roger Aubès, président du COPECO, le collectif des opérateurs économiques du Congo.
Que l'État congolais pense à éponger sa dette intérieure. Il faut d'abord amorcer pour alléger la souffrance du secteur privé national.
En 2010, le Congo avait bénéficié de l'effacement d'une importante partie de sa dette extérieure dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté.
Un reportage signé Loïcia Martial. Alors, Léona Wachekon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Investir dans les hôpitaux ou payer ce qu'on doit aux entrepreneurs privés ?
Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, clairement, dans les hôpitaux, et puis, dans une certaine mesure, donc, je ne sais pas s'il faut payer ce qu'on doit aux entreprises.
Vous ne savez pas s'il faut rembourser ce que l'État doit aux entreprises privées ?
Oui, en fait, le grand problème ici, c'est vraiment le problème de la gouvernance. Parce que, bon, c'est clair qu'il faut rembourser ce qu'on doit aux entreprises privées. Maintenant, dans les pays africains, il y a ce qu'on appelle le contrôle donc, de plusieurs entreprises sur les contrats fictifs, les contrats non existants, etc., qui explique pourquoi, en fait, il y a beaucoup de corruption également dans cela. Ce qui est important dans l'immédiat, c'est qu'il y a une crise sanitaire très importante. L'Afrique s'en est sortie bien jusque-là. Cela peut s'aggraver. Donc, c'est important qu'on soit préparé. C'est important qu'il y ait les infrastructures en place. C'est important qu'on fasse la recherche pour mieux comprendre ce qui s'est passé et se préparer. C'est une question de survie. Donc, je pense que investir pour limiter donc les chances d'une résurgence de la maladie et de l'épidémie, ça c'est très important. Évidemment, il faut que le gouvernement paye ses dettes, mais je pense que le plus gros problème ici, c'est vraiment la question de la gouvernance, la question de la corruption légale et illégale qui existe dans la plupart des pays africains. Et c'est vraiment le moment donc que les mesures économiques sont prises pour alléger la dette, que cela soit accompagné d'une préconditions en ce qui concerne des réformes institutionnelles qui permettent de limiter donc la corruption et permettent une bonne utilisation des ressources qui sont dégagées. Quoi. Voilà, je pense que c'est le problème le plus important.
Landry Signé, vous qui consacrez un livre au monde des affaires en Afrique, vous devez être très sensible à cette question du paiement de la dette intérieure, du paiement de la dette privée aux entrepreneurs qui réclament leur dû, et puis d'un autre côté, à cet assainissement des marchés locaux, à la lutte contre la corruption que souligne Léona Wachekon.
Tout à fait. Il y a trois points qui, je pense, sont extrêmement importants. Le premier point est celui, comme l'a brillamment mentionné Léonard, est relié à la question sanitaire. Extrêmement important parce que si le virus n'est pas contrôlé, si les citoyens ne sont pas soignés proprement, la crise continuera et donc affectera également à moyen et à long terme la performance des entreprises. Donc la question sanitaire est extrêmement importante étant donné la vulnérabilité globale des systèmes de santé en Afrique. Ayant dit ceci, la performance économique des économies africaines sera étroitement liée à la capacité d'apporter une solution satisfaisante aussi bien pour les travailleurs du secteur formel, que ce soit dans le privé ou dans le public, que les travailleurs du secteur informel, et de continuer à soutenir la demande. En ce sens, il y a quelques solutions que je pense qui sont mieux appropriées. Dans le secteur public et privé, par exemple, je pense que les gouvernements doivent éviter dans la mesure du possible les ruptures de paiement, dont la dette privée doit être réglée le plus rapidement que possible. Le second point est aussi le financement du secteur privé en général. Il est extrêmement important pour la reprise économique que le secteur privé puisse avoir des ressources pour embaucher et pour s'étendre. Et à ce moment-là, il pourra également payer des taxes qui renforceront le gouvernement. Et on dit ceci, comme plus ou moins 70% des emplois en Afrique sont dans le secteur informel, dépendamment des pays, évidemment, certains pays ayant une représentation plus élevée que d'autres, il sera très important de maintenir la consommation des ménages, particulièrement pour les 75 ou 80% des ménages les moins riches. Ça c'est un critère important. Il est aussi très important de protéger le revenu des salariés. Ceci parce que ces salariés sont ceux qui dépensent pour l'achat de différents produits et services proposés dans le secteur informel et donc soutiennent la consommation. Enfin, il faudrait aussi protéger vraiment les travailleurs du secteur informel qui sont assez souvent négligés par les gouvernements, étant donné le fait qu'ils soient difficiles à identifier et que les revenus qu'ils génèrent ne sont pas systématiquement intégrés dans les caisses de l'État.
Abdoulaye Ndiaye, cette protection de la population qui travaille dans le secteur informel, ça vous semble quelque chose d'important, de central dans les politiques que doivent suivre les gouvernements africains, surtout en ce moment ?
Oui, alors donc je partage tout ce que mes collègues ont dit et je voudrais apporter quelques nuances, notamment sur cette question du secteur informel. Donc il faudrait aussi un support des familles et parce que si la crise sanitaire continue dans les mois, voire années à venir, on pourrait avoir des problèmes de nutrition également en Afrique. Et donc je pense que supporter ce secteur informel-là qui contient dans certains pays plus de 90% de la population qui travaille est très importante. Et pour ça, je pense qu'il faudrait des changements et des réformes structurelles qui incitent à la formalisation des entreprises et qui permettraient aussi à l'État de faire leur politique de stimulus de l'économie. Par exemple, en mettant en place des politiques d'assurance chômage qui pourraient inciter aux entreprises de participer au secteur formel. Et aussi, ceci permettrait au gouvernement de faire leur politique d'incitation à la demande. Mais aussi, il est très important aussi de dire que c'est d'abord une crise sanitaire et donc que la plupart de ces fonds-là devraient aller vers le secteur.
Les fonds libérés par les moratoires, si vous voulez dire.
Les fonds libérés, oui, par le moratoire. Et je voudrais aussi terminer pour insister sur le fait également qu'il ne faudrait pas que ce moratoire-là soit vu, perçu par les marchés comme un défaut sur la dette et qu'il faudrait donc payer les dus aux entreprises, à la dette privée de ces pays-là. Donc je pense qu'il y a trois éléments ici, et la priorité étant la santé d'abord, et ensuite il faudrait un support des familles et du secteur informel avec des réformes structurelles comme une assurance chômage qui inciterait à la formalisation, et enfin aussi éviter que ce moratoire soit perçu comme un défaut sur les paiements et payer les dus aux entreprises.
Alors, en cette année 2020, beaucoup de pays africains, vous le savez, célèbrent le 60e anniversaire de leur indépendance. C'est le cas, par exemple, de la RDC, mais beaucoup des problèmes qui se manifestaient il y a 60 ans au moment de l'indépendance persistent encore, comme la dépendance aux matières premières. Écoutez ce dossier consacré à ce problème, signé Sonia Rollet pour la RDC.
Quand Léopold II obtient que l'actuelle RDC devienne sa propriété personnelle, il s'était engagé à ce que ses immenses ressources soient accessibles aux autres grandes puissances. Et depuis, ce pays n'a jamais cessé de faire l'objet de toutes les convoitises, Benoît Henrier est professeur d'histoire contemporaine.
Le Congo a eu le malheur, en fait, quelque part, de toujours avoir des ressources naturelles qui intéressaient des marchés internationaux à certains moments. On a commencé avec les esclaves à la période de l'esclavage. On suit ensuite sur l'ivoire, puis sur le caoutchouc, puis sur le cuivre, sur l'uranium, sur le diamant, sur l'or, sur le coltan, sur l'huile de palme. Donc, tous des produits qui, en fait, à un moment ou à un autre, ont une importance pour les marchés internationaux, se trouvent au Congo, ce qui attire finalement les convoitises aussi du capitalisme international.
Le nouveau code minier promulgué en 2018 devait changer le paradigme et permettre à l'État congolais d'avoir une marge plus importante de négociation vis-à-vis des entreprises étrangères et notamment sur les ressources dites stratégiques. Mais jusqu'ici, il n'a pas permis de changer la structure économique du pays. Les ressources minières représentent jusqu'à 90% des exportations du Congo, dont près de la moitié à destination de la Chine, mais à peine plus de 30% de son produit intérieur brut et de ses recettes fiscales. Jean-Pierre Okenda, expert congolais du secteur minier.
La structure économique et coloniale au Congo, c'est ça qu'il faut changer. Qu'on arrive justement quand même à ce qu'on extrait les matières premières, on les transforme au nouveau pays, on ajoute la valeur ajoutée. Ça, cela, il n'y aura pas de changement, des paradoxes.
Pour la plateforme de la société civile, le Congo n'est pas à vendre. Le plus grave, c'est que 60 ans après l'indépendance, les richesses et actifs du pays continuent de disparaître au même rythme et au profit de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Jean-Claude Poutou est le porte-parole de cette plateforme.
Aujourd'hui, nous ne savons pas où va la richesse du Congo et qui en profite. 60 ans après l'indépendance, le peuple reste les dindons de la farce. Bref, il est plus que temps de combattre cette corruption de l'élite et de faire en sorte que les actifs de l'État puissent profiter à la population congolaise.
En ce 60e anniversaire, la société civile presse le président Tshisekedi d'enquêter sur la dilapidation des actifs des sociétés de l'État. Le Congo n'est pas à vendre, va même jusqu'à réclamer la mise en place d'un registre de bénéficiaires réels pour savoir enfin entre quelles mains disparaissent les ressources du pays.
Abdoulaye Diaye, dans ce dossier signé Sonia Rollet, on entend des expressions comme structure coloniale, corruption des élites. On a l'impression d'entendre parler de l'Afrique d'avant-hier. Est-ce que c'est toujours prégnant, parce qu'il y a un décalage extrêmement fort entre le discours que vous, Abdoulaye Ndiaye, et puis Landry Signé et Léonard Wanchekon, vous tenez sur la modernisation, l'inclusion des informels, le paiement des intérêts de la dette au secteur privé, et puis cette autre Afrique-là qu'on nous présente qui est en retard. Mais est-ce que c'est seulement la RDC qui est concernée, ou est-ce que c'est tout le continent où il y a cette dualité, Abdoulaye Ndiaye?
Oui. Alors on se projette dans le futur, mais il est important de dire quand même que les événements historiques ont beaucoup de persistance. Et comme des chercheurs comme Léonard ici, des historiens et des économistes l'ont montré, que la colonisation, ces économies extractives peuvent avoir beaucoup de répercussions sur le présent. Et donc je pense vraiment que l'Afrique est toujours regarde le passé pour se projeter vers le futur. Et ici, pour se projeter vers le futur, je pense qu'il est important de développer la patience. C'est-à-dire que pour les ressources naturelles, il faudrait également avoir de l'expertise locale pour le mieux bénéficier pour avoir des contrats d'exploitation favorables. Nous voyons qu'actuellement, avec une exploitation faite par des grandes entreprises internationales, la plupart du cas, il y a des exonérations fiscales qui sont faites à ces entreprises-là et qui sont beaucoup de pertes de revenus pour ces pays. Et finalement aussi, les taxes sur les entreprises sont essentiellement ce qui représente les bienfaits que les entreprises ont et qu'il n'y a pas vraiment une expertise locale qui travaille sur ça. Donc je pense que lié aux questions de ressources naturelles, il faut vraiment se poser la question d'être patient pour les générations futures, mais aussi la question de la valeur ajoutée, pour voir qu'il faut vraiment aller au niveau du début de la chaîne de valeur et vraiment investir dans ce secteur-là afin qu'on puisse ajouter de la valeur à ces matières-là et les vendre avec un premium qui peut permettre à ces pays-là d'avoir les bénéfices. Donc je dirais à la fois patience en pensant vers le futur et la valeur ajoutée.
Alors, Abdoulaye Ndiaye, il y a un autre phénomène, une autre caractéristique des économies, de certaines économies africaines, des économies de l'Ouest et du centre de l'Afrique, qui sont liées à leur passé colonial, c'est la question de la monnaie, la question monétaire, le franc CFA. on est dans une espèce de phase de transition. On est en train de passer progressivement à une autre monnaie qui va s'appeler probablement l'éco d'ici la fin d'année, si tout se passe bien. Léona Ouantchekon, c'est une de transition importante, celle-là, pour l'Afrique?
Oui, c'est une transition importante, mais il faut qu'elle soit bien pensée. Tu vois, parce que, en fait, le problème, c'est que le monopole de l'ancienne monnaie ou le contrôle des structures en place pour gérer l'ancienne monnaie, le franc CFA en particulier, sur ce qui se passe, c'est quelque chose qui pose problème, surtout avec les pays comme le Ghana, le Nigeria, les autres pays de la sous-région. Donc je pense que l'autonomie, l'indépendance monétaire est essentielle. Donc mes collègues ont parlé tout à l'heure de secteur informel, des entreprises. Un grand problème qu'on a, c'est le financement de l'économie. Alors, la mobilisation des ressources intérieures. Donc, si les réserves de ces pays sont contrôlées, dirigées directement par les banques centrales étrangères, ça pose problème. Donc, je pense que c'est un progrès, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il faut vraiment que cela soit très bien pensé et que les réformes soient effectives, qu'elles soient inclusives, que les pays anglophones soient bien impliqués là-dedans, afin que on puisse arriver vers une monnaie qui soit vraiment une monnaie africaine, qui fonctionne comme une monnaie africaine. Les décisions prises par la nouvelle banque centrale soient une décision basée sur les réalités économiques du pays.
C'est ce qui va se passer, Landry Signé, vous pensez? L'Afrique de l'Ouest va avoir sa monnaie?
Permettez-moi d'abord de revenir sur la question des ressources naturelles. Je pense qu'un point extrêmement important à souligner est que avoir les ressources constitue une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Vous connaissez très bien le concept de malédiction des ressources naturelles ou la Dutch disease. Donc, il est extrêmement important de souligner que c'est l'usage ou le mauvais usage des ressources naturelles qui est un problème et non pas le fait d'avoir des ressources, parce qu'on a des pays comme la Norvège qui sont riches en ressources naturelles et qui ont aussi été capables de diversifier l'économie et de permettre une croissance inclusive. Donc, pour les pays africains, la première chose qui est vraiment importante, c'est la génération de revenus substantiels des ressources naturelles, provenant des ressources naturelles, et ensuite la diversification des économies pour permettre une transition des économies dépendantes des ressources naturelles à une économie plus complexe et diversifiée, donc un vecteur de croissance sur le très long terme. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner en ce qui concerne les ressources naturelles. Maintenant, en ce qui concerne la monnaie, je pense que Léona l'a brièvement mentionné, c'est désirable, c'est extrêmement important, mais les leaders africains doivent prendre leurs responsabilités, notamment en Afrique de l'Ouest, pour s'assurer que la transition soit un succès et non le reflet de rapports de force entre les acteurs locaux et les partenaires internationaux.
Cette émission est terminée. Merci à vous trois, Léona Ouantchekon, Abdoulaye Ndiaye, Landry Signé, d'avoir accepté l'invitation téléphonique de RFI. Les circonstances font que vous ne pouvez pas être en studio ici à Paris. Je vous invite à retrouver cette émission sur le site internet www.rfi.fr ou à nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.